Salut Cafard.
Salut Cancrola.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins.
Et toi? Ah, bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9. Bonjour.
Bonjour.
C'est les blablates sur CFM Rodez 107.9.
Alors, Cafard, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on va se muscler le cerveau avec des jeux littéraires. Et toi, Cancrela, de quoi tu vas nous blablater?
D'un album avec des efforts de diction à faire et d'une chute inattendue.
Mm-hmm.
Et maintenant, on va s'écouter une petite chanson. Muse?
Oui, c'est parti pour Muse. On se rejoint tout de suite après.
C'était Supermassive Black Hole par Muse. Vous êtes sur CFM 107.9 et vous écoutez Les Blablates. Et maintenant, Cafard, ton livre.
Oui, alors, on va parler aujourd'hui des exercices de style de Raymond Queneau, publié en 1947. Alors, les exercices de style, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un manuel de conduite ou un essai sur la mode. Non. Ce n'est pas non plus un roman, ni une pièce de théâtre.
Mais qu'est-ce?
Ce n'est pas un poème. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est tout ça à la fois.
Oh, oh, suspense.
Donc, en gros, Queneau, il fait beaucoup de jeux littéraires dans ce livre, et je vais vous expliquer comment. Raymond Queneau se livre ici un vrai tour de force puisqu'il raconte la même histoire dans 99 versions différentes, en variant les styles. Alors pourquoi il fait ça? Pour le plaisir, pour la prouesse littéraire, pour s'amuser. Voilà, il n'y a pas vraiment de but précis, quoi. Donc il part sur une histoire qu'il décline de plusieurs façons. Quelle histoire donc? Une histoire assez banale. Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis il va s'asseoir à une place libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de se reboutonner. Donc rien de très palpitant, quoi. C'est...
Oui.
Ça, c'est l'histoire de base, et ensuite c'est décliné en plusieurs versions. Donc on a par exemple en alexandrin, version comique, vulgaire, métaphorique, à plusieurs temps, c'est-à-dire un coup au présent, un coup au passé simple,
d'accord,
un coup à l'imparfait. Décliné aussi avec les cinq sens, c'est-à-dire tactile, visuel, olfactif, etc. On a aussi, par exemple, la version botanique, médicale, paysanne. Enfin bon, il y a plein de versions différentes et c'est assez assez drôle, quoi.
D'accord.
C'est tout l'intérêt, en fait, de ce livre. C'est ludique, c'est drôle, c'est original. Et puis, c'est pas contraignant aussi parce que c'est pas une histoire de 100 pages, quoi. C'est juste, l'histoire, elle fait une page.
D'accord.
Et puis, on tourne.
Elle est répétée,
voilà.
Ok. Donc, on peut en lire un tous les soirs, quoi.
Exactement.
Gros, c'est
ça.
Ok.
Donc, on tourne la page, on en a encore une autre version, on tourne la page, on en a encore une autre version et tout.
Okay.
Mais c'est assez drôle parce que, franchement, au bout d'un moment, on se dit, là, il a fait le tour, qu'est-ce qu'il va faire de plus, quoi.
Ouais.
Et non, il trouve toujours un nouveau truc à faire, quoi. Du coup, je vais vous en lire deux ou trois pour que vous voyez un petit peu le principe. Après, je vous laisse les découvrir par vous-même parce que c'est vraiment sympa à lire. Pour commencer, j'ai choisi la version récit, puisqu'elle est assez classique. Comme ça, on reprend bien le contenu de l'histoire, quoi. Là, on le voit bien.
Et parce que, en fait, il y a sur la première page, il fait quoi? Il raconte une première fois l'histoire ou non? C'est directement des versions, en fait.
Ouais, c'est directement des versions.
Ok.
Alors, la version récit. Un jour vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu de ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. 2 heures plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'échancrure de son pardessus en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Donc ça, c'est la version la plus classique.
D'accord, oui, donc effectivement, c'est pas très très long.
Voilà, pas très très long, l'histoire n'est pas, faut le dire, pas palpitante.
Non, mais bon, après, voilà, c'est bien écrit déjà, cette version. Et j'imagine que oui, tout le jeu, c'est vraiment l'écriture, du coup.
C'est ça. Du coup, on passe, je vais vous lire la version injurieuse. Le titre, c'est injurieux. Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide, encore humide, de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con, en train de pérorer avec un autre con, devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis, qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle, il sera toujours aussi moche, ce sale con. Voilà. C'est drôle, quand même.
Oui, c'est drôle, ouais.
Et du coup, c'est toujours des trucs comme ça, quoi. Enfin, je vais vous lire aussi la version gastronomique.
Ok.
Parce que moi, elle m'a fait rire. Et après, j'arrête parce que bon, on va pas toutes les passer. Après une attente gratinée sous un soleil au beurre noir, je finis par monter dans un autobus pistache où grouillaient les gens comme asticots dans un fromage trophée. Parmi ce tas de nouilles, je remarquais une grande allumette avec un cou long comme un jour sans pain et une galette sur la tête qu'entourait une sorte de fil à couper le beurre. Ce veau se mit à bouillir parce qu'une sorte de croquant, qui en fut baba, lui assaisonnait les pieds poulettes. Mais il cessa rapidement de discuter le bout de gras pour se couler dans un moule devenu libre. J'étais en train de digérer dans l'autobus de retour lorsque, devant le buffet de la gare Saint-Lazare, je revis mon type tarte avec un crouton qui lui donnait des conseils à la flan, à propos de la façon dont il était dressé. L'autre en était chocolat. Voilà.
Ah oui, c'est vraiment à chaque mot, hein, c'est marrant. C'est...
C'est ça, il y a la trame, mais après, sinon, ça change vraiment, quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est vraiment rigolo parce que ça montre aussi toutes les possibilités qui existent, en fait.
Oui.
On se dit souvent, oh, comment je pourrais raconter ça autrement et tout. Mm-hmm. Ben, en fait, il y a... Chez Kono, il y en a 99 versions possibles.
Ouais. Et ça change l'ambiance, ça change beaucoup de choses, quoi. Quelques adjectifs ou quelques compléments différents et...
C'est ça.
Et c'est plus la même ambiance, quoi.
Ouais, quand là, j'ai cru comprendre que t'as bien aimé la version injurieuse.
La version injurieuse, c'était très rigolote, j'ai trouvé. Mais j'essaie de pas être devant le micro pour pas trop faire d'interférence.
Voilà. Donc, c'est vraiment un livre sympa à lire parce que justement, c'est très ludique, c'est pas contraignant. Enfin, c'est vraiment, il y a pas besoin d'être concentré pendant 3 heures sur le roman,
oui.
Quoi. Comme je disais au début, c'est à la fois un roman, une pièce de théâtre, un poème parce que il reprend tous ces genres, en fait. Mmh. Et il les décline.
Oui.
Alors, quand c'est sorti, ça a connu un gros succès. Très gros succès. À tel point que ça a été adapté au théâtre. Ils en ont fait des émissions de radio. Enfin, moi, ils ont fait plein de choses avec ça, quoi. Parce D'accord. que du coup, ça se décline de différentes manières, quoi.
D'accord.
Bon, du coup, Queno, là, on parle de jeux littéraires. Donc, forcément, il faut parler vite fait quand même des jeux littéraires de Loulipo.
Oui.
Quand même. Parce que Queno, c'est un des fondateurs de Loulipo. Alors, Loulipo, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais, Cancre, là, ce que c'est Loulipo?
Bah, vaguement, je sais que c'est un mouvement plutôt sur l'écriture, enfin, des jeux d'écriture pour favoriser un autre style, d'autres styles d'écriture avec l'écriture sans réfléchir, là, je sais pas comment on appelle ça, mais.
Ah, l'écriture intuitive.
Voilà, ouais. L'écriture intuitive.
Et automatique.
Ouais. Ouais. Voilà, je connais quelques trucs, mais je connais pas okay. beaucoup.
Alors, ouais, Loulipo, c'est l'ouvroir à littérature potentielle. Donc, c'est ce que tu dis, c'est vraiment... Le but, c'est de créer de nouvelles techniques littéraires, en fait, pour agrandir la création littéraire, quoi, pour rester toujours dans les mêmes schémas.
Okay.
Mais l'écriture automatique, c'était plus les surréalistes qui faisaient ça.
D'accord. Okay.
Juste avant, en fait.
D'accord.
Et après, Loulipo, donc, c'est au début des années 60, et c'est le partenariat entre Raymond Queneau, un poète, et un mathématicien, François Le Lyonnais. Parce que Loulipo, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de jeux littéraires, mais basés sur des structures mathématiques, en fait. Mmh.
D'accord.
Alors, par exemple, j'ai pris quelques exemples. Je vais pas passer tous les jeux possibles, mais je vais juste parler des principaux. Enfin, en tout cas, moi, ce que je préfère. Donc, par exemple, on a le jeu du lipogramme. Le principe du lipogramme, c'est qu'on écrit un texte en s'imposant d'abandonner une ou plusieurs lettres de l'alphabet.
Mmh.
Donc, par exemple, on écrit tout un texte sans la lettre A,
comme
sans la lettre
la disparition,
R, c'est etc.
Ça.
Voilà.
D'accord.
Et justement, alors là, c'est un truc quand même assez énorme, c'est que il y a un auteur, donc Georges Perec, qui a écrit un roman, La disparition, qui reprend l'histoire de la baleine, Moby Dick, etc. Et il l'a écrit sans la lettre E. Donc, tout le roman, il n'y a pas une seule fois la lettre E. Donc, ça donne quelque chose d'assez étrange. Mais bon, ça se dit quand même, mais c'est assez étrange. Puisque la lettre E, c'est quand même une des plus utilisées dans la langue française. Donc,
ouais.
Et ce qui est énorme, je trouve, c'est que quand le livre est sorti, La disparition, ben en fait, les critiques littéraires, au début, ils ont fait « Ah ouais, bon, c'est cool, mais sans plus. » Parce qu'en fait, ils n'ont pas
ils
vu qu'il
pas
manquait
vu,
le
ils
E.
Ont, ils n'ont pas, ils ont pas
ça.
Remarqué le...
Et donc après, Georges Perec, il a fait « Bon, les gars, quand même, j'ai écrit sans
travail,
la lettre
quoi.
E, quoi. Ah. » Vous avez même pas remarqué qu'il n'y a pas une seule fois la lettre E. Et du coup, après, c'était « Ah ouais, quand même, wow, c'est génial et tout !» Voilà.
Okay.
Voilà, donc le roman La disparition, c'est vraiment le paroxysme du lipogramme, parce que c'est super dur de faire un lipogramme, donc
faire... Un bouquin entier.
C'est ça. Surtout sans la lettre E, quoi. Après, on a le totogramme. Le totogramme, donc c'est pas une histoire de toto à deux balles. on écrit des phrases dont tous les mots commencent par la même lettre.
Ah oui, ok.
Donc, par exemple, tu choisis la lettre R et tout doit commencer par la lettre R.
Mais faire une phrase comme ça, c'est pas possible, si.
Si, mais ça dépend des lettres, en fait.
Ouais,
tu choisis, parce qu'il y en a des plus faciles que d'autres.
Ouais.
Mais j'ai un exemple, là, par exemple, on a Laurent lit lentement le large livre lourd.
D'accord, voilà. Ouais. Je pensais au L en me disant qu'à priori,
voilà.
C'était
c'est un des plus faciles,
seuls trucs qui peut à peu près... Ouais, ok.
C'est ça.
Ok.
Après, on a le pangramme. Alors ça, c'est énorme, je trouve. Le but, c'est de construire la phrase la plus courte possible avec toutes les lettres de l'alphabet utilisées.
Ah, ok.
Alors, il y en a certaines, pas de souci. Et puis, quand tu arrives au X, Y, Z et tout, tu dis, comment je vais faire mon
truc
là?
Moi, je les case. T'as un exemple?
Ouais. En fait, c'est un exemple d'un de mes anciens élèves que j'ai gardé parce que je trouve que c'est juste génial ce qu'il a fait.
Trop cool.
C'est le meilleur que j'ai vu pour l'instant. Au zoo, je paie le whisky 3 fois moins cher qu'au bar de la galaxie voisine.
Waouh !
En plus, je l'adore parce que elle veut dire quelque chose. Parce que souvent, ces phrases-là de ce jeu-là, ils veulent rien dire.
Ça marche plus du tout. C'est quoi. Ça. Ah, c'est génial.
Voilà. Donc, si vous voulez essayer de faire un pangramme, bon courage.
Non, mais il faut avoir un prof comme cafard pour y arriver. Donc, ça a été.
Tu parles. Après, on a aussi la méthode S+7. Alors ça, c'est assez énorme, mais bon, là, il faut un dictionnaire à porter. Parce que le principe, c'est on reprend un texte connu et on remplace certains mots. Donc, on choisit, par exemple, de remplacer les noms ou les verbes ou les adjectifs par le 7e mot qui suit dans le dictionnaire.
Dans le dictionnaire, ok. Mm-mm.
Donc, par exemple, je vais juste vous donner un titre et tu vas me dire direct ce que c'est. Le loustique et l'agnostique.
Le loup et l'agneau.
Voilà. Okay. Voilà le principe. Et du coup, c'est trop drôle parce que quand tu le fais avec des textes très connus, tu sens quand même le texte.
Il y a quelque chose quand même.
Tu reconnais le texte et en même temps, ça veut rien dire quoi. Donc c'est assez drôle. Enfin, ça veut rien dire des fois et ça fait des choses assez bizarres quand même. On a aussi la littérature définitionnelle. Alors ça, c'est trop drôle. Pareil, tu prends un texte et en fait, tu remplaces chaque mot par sa définition.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc ça rallonge beaucoup.
Donc ça rallonge vachement. Le texte. Tu fais des périphrases à chaque fois.
C'est ça. Il y a une des versions des exercices de style qui est la littérature définitionnelle. Et après, je finis avec un dernier très connu et puis j'arrête là parce que bon, il y en a encore des dizaines, mais on va pas tous les passer. Le cadavreski.
Ah oui.
Ouais,
oui.
Le fameux cadavreski.
D'accord.
Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est génial. C'est faut être quand même au moins 3-4 pour le faire, voire plus. Chacun écrit un mot. Donc par exemple, il y en a un qui dit bon, mais moi j'écris le nom, moi j'écris le verbe, moi j'écris
le complément,
moi j'écris le. L'adjectif, etc. Et ensuite, on ouvre et on voit du coup la phrase que ça fait. Et ça s'appelle cadavreski parce que les premiers qui l'ont fait, ça nous a donné... Est-ce que tu le sais, Cancrela?
Non, mais non.
La toute première phrase, donc, c'était « Le cadavreski boira le vin nouveau ».
Ah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Voilà.
Ok. Bon, alors là... Très bien, on s'endormira, mais alors méga plus intelligent. Et du coup, ça me fait penser... On en avait déjà parlé entre nous, mais il y a, je fais une référence à une autre radio, mais bon, parce que c'est intéressant, ils utilisent justement tous ces jeux littéraires. Sur France Culture, il y a une émission, Les Papous dans la tête, où justement ils travaillent sur beaucoup d'exercices littéraires du Loulipo, en fait. Si jamais, ça peut être écouté aussi pour avoir d'autres exemples, voilà.
C'est ça. C'est vrai que c'est vraiment un aspect intéressant de la littérature, je trouve, l'Oulipo et les jeux littéraires, parce que en tant que lecteur, tu te l'appropries parce que t'as envie de le faire et puis tu t'amuses à le faire aussi, juste pour déconner, enfin voilà.
Ben, il y a un côté accessible aussi, du coup. C'est ça. On joue avec les mots, on n'est plus trop trop sérieux. Bon, même si quand même ça demande un peu de maîtrise linguistique, hein, quand même. Mais ça veut dire qu'on peut jouer et puis ça provoque la créativité aussi, ce que tu disais.
C'est ça. Ouais. Du coup, c'est vraiment intéressant.
C'est pour ça que t'aimes particulièrement ça, j'imagine. Parce que si tu nous en parles, c'est que ça t'a particulièrement marqué. C'est quelque chose que tu as dû faire aussi, toi.
Ah oui, moi, je m'éclate à des fois à faire des tautogrammes, des hippogrammes, des cadavreski quand on est plusieurs et tout. Ça m'éclate, quoi. Et des fois, ça donne des trucs, mais juste trop drôles. Alors, je me suis déjà pris des gros fous rires avec les cadavreski. Bref. Bon. Ben, voilà. Un livre intéressant, facile à lire. Pour les petits curieux de la littérature, quoi, ou pour les autres.
Merci beaucoup, Cafard. On va s'écouter maintenant une autre petite musique. C'est Titillo comme langue.
voilà pour les blabates sur CFM Rhodes 107.9. Alors, Cancrela, tu vas nous parler d'un petit album jeunesse.
Oui, comme je disais en présentation, il y a des petits efforts de diction à faire parce que le titre, c'est « Son chacha à sa chouchoute
». Ouais, c'est le principe des chaussettes de l'archiduchesse. Voilà. Sont-elles sèches, archi-sèches?
Ouais, ouh, j'avais ici. Voilà. Et donc, du coup, bon, il faut y aller tranquille. Alors, l'histoire de son chacha, sa chouchoute, c'est une jeune femme qui s'appelle Chouchoute. Chouchoute peut-être parce que elle aime son petit confort et que elle aime s'occuper de son chez-elle. Je pense, parce que bon, chouchoute, c'est pas vraiment un prénom, hein, on est d'accord. Mais elle chouchoute un peu son intérieur, voilà. C'est une chouchoute, voilà. Donc, il y a Chouchoute qui chouchoute son intérieur. Et un jour, dans son arbre de son jardin, il y a un chat qui tombe de l'arbre dans le jardin. Et là, du coup, le chat, c'est un peu un fléau qui arrive dans cet équilibre parfait.
Et qui bousille tout.
Il bousille tout, le chat, voilà.
Ouais, on connaît ça.
Voilà. Ça, c'est la petite histoire. Bon, évidemment, ça s'arrête pas là, ça continue. D'ailleurs, je vais directement vous lire. Donc ça, c'est la mise en situation de l'histoire. Bon, l'histoire est pas très très longue, hein. C'est un album jeunesse. Une phrase par page et un grand dessin. Et je vais vous lire donc ce moment-là, la petite transition justement après que le chat soit arrivé et foutu le bazar. Donc voilà. Le lendemain, le surlendemain et le jour d'après, le chacha retomba pile dans le jardin de sa chouchoute. Et paf les bégonias. Et plouf dans le bassin. Et ploc ploc sur le tapis. Et crrr le canapé et blang le vase. Sa chouchoute ne savait plus quoi faire pour retrouver sa tranquillité. Et puis un jour, pas de chacha. « C'est pas trop tôt », dit sa chouchoute. Les jours passèrent. Au début, sa chouchoute était vraiment contente. Et puis un matin, elle se sentit toute bizarre. Elle n'avait plus envie de s'occuper de son jardin. Voilà. Donc ça, c'est la petite transition. Et je voulais lire ce passage parce que c'est là où ça balance, en fait, dans le livre, où il y a un petit changement de d'état. Donc, on a sa chouchoute qui chouchoute son intérieur. Et puis, tout à coup, le chaos avec le chat. Et puis, finalement, quand il est plus là, eh ben, il y a un manque. Et ça, c'était pas mal. Et donc, du coup, l'histoire continue avec, à la fin, une nouvelle chute. Une nouvelle chute très rigolote, donc bon, je le laisse quand même en suspens.
Du suspens.
Voilà. Mais du coup, il est vraiment sympa. Il est drôle et bon, bien sûr, comme souvent dans les livres jeunesse, il y a quand même un côté assez une petite réflexion derrière ce qui est écrit. Hein. C'est quand même souvent presque philosophique ces petits livres. C'est marrant. D'ailleurs, donc les deux personnes qui ont écrit le livre, c'est Agnès de l'Estrade et Clotilde de la Croix. Alors, bon, on aura remarqué, elles sont pas chevaliers, hein, toutes les deux. Mais c'est vrai que c'est marrant, hein, il y a quand même une espèce de truc, je sais pas, dans le livre jeunesse, il doit y avoir...
C'est que les bourgeois qui écrivent ça, quoi, c'est pas possible.
Voilà. Alors moi, je me dis, bon, ben, peut-être que je vais faire ça. Un jour, j'aurai ma particule qui arrivera. Hein, je deviendrai deux Cancrela, je sais pas.
Mais, c'est ça. Bon, ah, je vais t'appeler comme ça maintenant, deux Cancrela.
Ouais, il y a un truc, en tout cas, parce que Agnès et Clotilde, bon, hein, ça donne un peu le ton, quoi.
Voilà. Ah, mais c'est ouf. Hein. Franchement, moi, ça me fait juste
rigolo,
halluciner. Hein, quoi.
C'est rigolo. Bon, je pense que c'est vraiment le passe-temps, tu vois. De la haute, quoi. Mais en tout cas, bon, c'est très chouette. Et même si, bon, bah, du coup, voilà, c'est un peu prout-prout. Le livre est un peu prout-prout, d'ailleurs, hein, parce que dans l'ambiance du truc, justement, on a sa chouchoute qui est très, voilà, aux petits soins pour ses petites fleurs, son petit truc, son petit gilet, son machin. Mais justement, c'est ça qui est vraiment sympa, puisque justement, donc c'est perturbé et justement, ça lui fait du bien. Voilà.
Ouais, donc, comme quoi le changement, ça peut faire du bien.
Ouais, non, c'est pas mal. Et par rapport justement au dessin, on a ça qui est assez présent. Donc les dessins, ils sont, c'est vraiment de la ligne claire. C'est vraiment juste les contours des personnages. Au niveau des couleurs, il y a une seule couleur. C'est du rose. Enfin, c'est un rose parme. Tout est blanc. Il y a vraiment pas de couleur, il y a même pas de gris, tout est blanc, juste des contours et quelques éléments qui sont colorés en rose. Donc déjà visuellement c'est assez chouette, ça fait un effet assez sympa.
C'est très doux quoi comme
Ouais. Et en plus ben justement dans ce côté doux, le dessin il fait un peu de la veine de Sempé, bon en moins tremblotant, plus entre Sempé et entre les blogs Pour ceux qui connaissent, il y a eu toute une série de blogs qui sont sortis, des blogs autobiographiques de dessinatrices, majoritairement comme Margot Motin ou Pénélope Bagieu, pour celles qui sont assez connues, voilà. Où c'est un peu ce style-là, c'est-à-dire voilà, on se dessine vraiment style BD, quoi. Et donc voilà, et donc ça c'est le style du dessin, c'est vraiment très joli, c'est très propre, c'est très net, c'est très fini. Et donc ça colle bien justement à ce truc un peu propre, quoi. Voilà. Et après par contre, bon, le dessin est impeccable au niveau du chat par exemple, le chat, il est juste anatomiquement super bien, quoi. C'est du dessin de très grande qualité, hein. Voilà. Et avec des expressions très chouettes pour le personnage féminin, qui n'est pas une bombe, quoi, on va dire. Elle est pas, c'est une jeune femme qui est pas, enfin voilà, elle. On n'est pas justement dans les blogs autobiographiques là dont je parlais. En général, les filles elles sont très jolies, très fines, très trucs, très machin. Bon là, c'est une petite nénette, quoi. Il y a pas de, on fait pas un truc particulier sur elle, quoi.
Ouais, il y a pas de stéréotype. À la con par rapport à la fille, quoi.
Bah disons que il y a pas le truc qu'il faut qu'elle soit jolie pour être personnage principal. Après il y a le stéréotype de elle a une jupe, une petite veste, un petit nœud dans les cheveux et elle s'occupe de ses fleurs,
voilà. Et elle aime bien son intérieur.
Ouais. Mais ça c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, hein. Aimer son intérieur, aimer s'occuper de ses fleurs, aimer son petit confort, c'est quelque chose qui est très bien et qu'il faut pas renier parce que c'est un peu trop féminin ou je sais pas quoi. Ce serait bien d'ailleurs que les garçons s'occupent aussi de leur intérieur et
c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, en fait, c'est pas forcément féminin, quoi.
Exactement. Ouais, c'est un plaisir.
Ça concerne tout le monde.
Voilà, on peut tous partager le fait de se cocooner. C'est tout à fait agréable. Et donc, il y a vraiment ça. Il y a vraiment des dessins où, voilà, elles se préparent des petits cakes qu'on a vraiment envie de manger parce qu'ils sont super mignons. Et la maison, elle est trop mignonne. Donc, oui, on a bien envie d'avoir aussi ce petit confort-là.
Et ce petit chat.
Et même alors le petit chat, bon, il faut quand même une sacrée why, quoi. Hein. Mais oui, il est mignon.
Et du coup, le chat, il s'appelle Chacha, c'est ça?
Et alors oui, alors ça c'est rigolo parce que du coup les noms ils sont assez marrants. Il y a donc le personnage principal c'est Chouchoute et le chat il s'appelle directement Chacha. Et il y a tout le temps les pronoms devant sa chouchoute et son chacha. Ouais. Et ça c'est rigolo parce que du coup interprétation, ça fait une espèce de appartenance mutuelle puisque du coup c'est pas genre la chouchoute et son chacha, c'est sa chouchoute et son chacha.
Ouais, c'est le lien vraiment entre les deux.
C'est ça. Et c'est rigolo parce que du coup elle-même appartient, enfin il y a une espèce de truc rigolo comme ça sur l'emploi du son et du ça. Et avec le chuchu, bien sûr, ben voilà, ça chuchu. Voilà.
ça me fait penser dans une série comme ça, il y a un personnage qui présente ce chat avec plusieurs noms différents, quoi. Et puis à un moment, il arrive à un chat, il fait, et lui c'est Chacha parce qu'il est trop Chacha. Donc si vous avez un chat, un nouveau chat, vous pouvez l'appeler Chacha. C'est vachement à la mode.
Chacha, ouais, c'est très à la mode du coup. Oui. Et pour finir, je vais évoquer un petit peu ce que j'ai vu sur la manière dont les auteurs envisagent l'écriture, parce que c'était assez intéressant. Donc, celle qui a écrit l'histoire, donc c'est Agnès de l'Estrade. Elle crée ses histoires à partir du titre. Donc là, justement, c'est rigolo puisque bon, le titre c'est ça, hein, c'est son chacha à sa chouchoute. Et du coup, en fait, elle trouve un titre et à partir du titre, elle déroule l'histoire en fait comme un peu une pelote. Donc ça, c'est assez marrant. Donc elle sait pas vraiment trop, enfin ça se construit un peu au fur et à mesure et elle passe pas mal de temps à rêver l'histoire et c'est l'écriture qui deviendra assez du coup un peu le dernier jet, quoi, enfin le moment de plus on va résumer un petit peu la chose et elle associe ça, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de chansons. Donc elle associe ça à l'écriture de la chanson. Et ce qui était aussi rigolo, c'est que elle disait que son objectif un peu c'était d'essayer d'écrire le moins possible, d'aller vraiment vers l'essentiel. Alors en jeunesse en plus bon ben ça se comprend bien, mais il y a une démarche assez rigolote qu'on peut rapprocher de d'autres domaines artistiques, avec le moins c'est mieux. Et donc voilà, cette démarche d'essayer de trouver les mots le plus juste possible pour raconter la vie, parce que c'est vraiment des trucs
Oui, c'est des vie, trucs quoi. Du quotidien, ouais, quoi. Ouais, un nouvel animal de compagnie qui chamboule ton quotidien.
C'est ça. Ouais. Notre petit ordre et puis l'extérieur qui vient bouleverser aussi notre petit ordre et le rejet et finalement peut-être aussi le plaisir d'être rappelé aussi à la vie, rappelé aussi aux autres. Parce que du coup, elle est toute seule quand même, en fait, sinon avec ses bégonias.
Oui, et pas seulement à rester chez soi, tourner en rond, quoi.
Voilà, il y a quand même ça aussi. Et un peu la même chose du côté de la dessinatrice, donc Clotilde Delacroix, qui elle voit donc aussi dans la construction, c'est plutôt assez intuitif. Et elle, c'est vraiment une histoire elle voit l'histoire comme un film et donc d'essayer de trouver toujours les scènes clés pour pouvoir raconter son histoire. La mieux possible avec toujours, enfin, elle parle un peu d'un sentiment de frustration parce que du coup, on dessine pas aussi vite et on peut pas tout rendre, donc il faut vraiment, faire un choix stratégique dans ses dessins. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique, j'imagine, quand on illustre, une histoire. De son côté, s'il y en a qui connaissent, elle est l'auteur des séries Lolotte. Voilà. Lolotte, c'est une petite cochonne qui est super mignonne. Voilà.
Okay.
Voilà, c'est tout pour cet album-là. Et il est aux éditions Sarbacane. C'est la même édition qui avait publié Les Petites Reines avec le vélo et la laideur. Voilà. Et il date de 2017, alors c'est un livre très récent. Et je suis contente de présenter un livre très récent. Voilà.
Eh oui, on fait encore des choses de qualité, heureusement.
Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que ça prend autre chose de les trouver, du coup, que les anciens qui ont un peu eu le temps d'avoir leur réputation.
Merci à deux cancres là. un petit point d'actu littéraire de ce mois de mars. Bon, bien sûr, vous le savez tous, parce que tout le monde est obsédé par ça. C'est le printemps des poètes.
Ah ben oui, tout le monde y pense, on n'en dort plus.
Exactement. Mais forcément, quoi. Je sais que c'est dans la tête de tous les gens, quoi. Printemps des poètes, du 3 au 19 mars. Et c'est la 20e édition cette année.
Ok.
Comme d'habitude, beaucoup d'interventions, de lectures, de poèmes, etc. Un petit peu partout. Notamment à la menuiserie, le 16 mars, il y a des lectures en musique. Après, il y a d'autres choses à droite à gauche.
Un gros programme.
Voilà, donc, gros programme, donc on va pas tout dire. Autre point d'actualité littéraire sur Odesse et sur l'Aveyron en particulier, là, que je trouvais intéressant de dire parce que c'est assez sympa. La Maison du Livre de Odesse organise un concours d'écriture qui s'appelle Sur tous les tons, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie du 17 au 25 mars 2018.
Ah, super.
L'objectif, c'est d'écrire un texte de 250 à 300 mots en utilisant 10 mots qui sont déjà donnés. Et du coup, ça rejoint un petit peu les jeux littéraires de l'Oulipo, etc. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc, ça s'appelle 10 mois, 10 mots.
D'accord.
Et la date limite pour poser les textes, c'est le 11 avril. Et on peut gagner des livres, des ouvrages, etc. Donc, ça peut être assez sympa. Et il y a plusieurs catégories. Enfants, adolescents, adultes.
Très bien.
Voilà.
Tu vas t'y mettre, cafard?
Ouais, je pense que je vais le faire.
Bon, super.
Pour le délire, parce que
très bien.
Ça a l'air cool. Allez voir sur le site de la Maison du Livre pour plus de renseignements sur ce concours. Et bon printemps des poètes.
Et pour finir, donc, notre petite citation. Alors, on a choisi Nietzsche. Et donc, la citation, c'est « Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » Et c'est dans « Ainsi parlait Zarathoustra ».
Merci, Cancrela.
Merci Cafard.
C'était les blablates sur CFM Rhodes 107.9. On vous dit à très vite et profitez bien du printemps qui arrive.
Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.